Moi, j'ai envoyé de Mouchmaï au Katanga oriental. J'ai répété totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai été libre de Mouchmaï au Katanga. Je pense qu'en combinant les deux, la vie de mes présidents trouvait une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde à nouveau la parole. La Société commerciale des transports et des ports vient de s'acquérir de 10 nouvelles voitures en provenance de la Chine. Ces engins sont acquis grâce à la redevance logistique terrestre. À Kisangani, il y a quelques jours, le Premier ministre a inauguré le trafic ferroviaire entre Kisangani et Ubundu. Cette acquisition relance donc les débats pour certains observateurs sur les renforcements des transports par voie ferrée en République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook et nous vous signalons que plus de 2000 personnes ont consulté ce sujet depuis hier et plus de 1000 ont commenté sur notre page Facebook. Julie Faisa Bongonda et Sosanda, Dieudonné Nyangasa, la mise en onde de cette émission supervisée par Martin Sebujangé et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Lambung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Le chemin de fer en RDC est actuellement organisé en quatre réseaux distincts, à savoir une ligne permettant de relier Matadi et Kinshasa d'une part, ainsi qu'un réseau plus étendu en liaison avec la Zambie, l'Angola et le lac Tanganyika, avec Lubumbashi comme point central, une ligne reliant Kisangani et Ubundu pour pallier l'installée folle sur les Congos, et enfin une ligne à voie étroite dans la région de Luele. Il existe par ailleurs des projets des prolongements des lignes existantes, dont une liaison entre Kinshasa et Ilebo, ce qui permettrait de joindre les deux réseaux le plus important. Et encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, vous nous avez rejoint à ces débats, vous avez également la chance d'ouvrir ces débats, mais permettez-nous d'abord de dire un mot à notre invité qui est déjà dans ce studio, M. Hyacinthe Diogolo. Bonjour M. Hyacinthe.
Bonjour, Gilles.
Alors, nous rappelons que vous êtes directeur du département du chemin de fer à la Société commerciale des transports et des ports. Nous allons vous retrouver d'un moment à l'autre. Alors, Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gilles. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
Alors, quel est votre commentaire ou également votre contribution à ce débat?
C'est une bonne chose aussi, il y a une acquisition de 10 engins pour essayer un peu d'améliorer le trafic. Mais néanmoins, il se pose beaucoup de problèmes. Il se pose beaucoup de problèmes. Pourquoi je dis beaucoup de problèmes? Bien fait de commencer à rappeler que le chemin de fer est en quatre réseaux, mais toujours dans le même sens. Vous vous souviendrez avec moi, M. Chier, ici à Lubumbashi, on avait reçu plus de 12 ou 14 locomotives. Et il y a eu une inauguration avec port en pompe par le Premier ministre. Il y avait des militaires, des policiers partout là-bas pour inaugurer cette acquisition-là. Mais par après, quel a été le rendement par rapport à cette acquisition-là? Le rendement est nul. Il ne suffit pas seulement d'acquérir ces engins, il faudrait aussi baliser les moyens, mettre les moyens à la chaussée de différents réseaux de chemin de fer pour que ces engins-là puissent fonctionner normalement. Puisque M. Gilles, avec l'acquisition des engins de 14-12 locomotives au niveau de la SNCC, avec l'argent de la Banque mondiale, il nous a été fait voir que c'est l'argent du gouvernement, mais ces engins-là sont restés immobilisés au niveau de la SNCC à Lubumbashi par manque de lubrifiant. Et cela a mis au moins plus de 4-5 mois sans que ces engins-là ne puissent fonctionner. Aussi longtemps que pour nous, c'était un look de soulagement pour les agents de la SNCC. Et pour aussi renchérir, M. Gilles, je dirais ceci, mais les travailleurs ne sont pas payés. Si les travailleurs connaissent au moins des arriérés comme à la SNCC, de 14 mois, 15 mois, même si on entrait en acquisition de nouveaux engins, rien ne sera fait concrètement par rapport à l'amélioration de la qualité du travail. Puisqu'on a toujours dit, ils vont être à la pointe d'oreille. Ces engins-là qui ne sont pas payés, comment est-ce qu'ils seront motivés pour faire un travail, pour abattre un travail de titan? Parce que si je dis cela, M. Gère, pourquoi? Nous avons vécu M. Place en son temps, qui était ici à Lubumbashi, avec un silo seulement, avec le même matériel qu'il y avait créé à la SNCC, avec le même personnel, il y avait eu amélioration du rendement, il y avait eu amélioration du trafic ferroviaire. Et tout était au point. Tout ce que les agents de la SNCC étaient motivés, il y avait du matériel de remplacement, il y avait même une maison bien qui était chargée d'amener les pièces de rechange, c'est-à-dire tout était bien planifié. Mais aussi longtemps que rien n'est planifié, qu'est-ce qu'on fera avec ce locomotive? D'où proviendront les pièces de rechange?
Oui, maître Sonville. Oui, maître Sonville.
Oui, alors.
Oui, avant de poursuivre un peu, est-ce que vous pouvez quand même nous faire un état des lieux de ce deuxième réseau qui est quand même plus étendu et plus important en liaison avec la Zambie, l'Angola et les lacs Tanganyika, avec le Lubumbashi comme point central? Aujourd'hui, c'est dans quel état? Et quel est le problème qu'a ce réseau?
Le problème le plus sérieux qui est ici, qui se pose ici à Lubumbashi, c'est par rapport d'abord au paiement des agents, les salaires des agents.
Oui, oui, là, c'est un autre problème. Mais l'état des lieux, moi je parle de la voie ferrée.
L'état des lieux, de la voie ferrée,
parce qu'à un certain moment, à une certaine époque, il y avait des vols orchestrés par une certaine population riveraine. Qui volait, qui mettait ce réseau dans un état délabré, déplorable. Est-ce que aujourd'hui, ces voies ferrées sont-elles sécurisées?
Non, les voies ferrées ne sont pas sécurisées. D'abord, ces voies ferrées sont en état vétuste. Ça, c'était prémissé. Et deux, s'il y avait des vols, ce sont les gens-là autour des rails. Jadis, quand la FNCC transportait les minéraux, il y avait les débris de minéraux qui tombaient. Et ce sont les soi-disant opérateurs économiques, exploitants de minéraux, qui envoyaient les gens pour ramasser tous ces débris se trouvant autour au-delà des rails. Et s'admettaient les rails en une instabilité qui pouvait même provoquer le déraillement. Au-delà de ça, ce qui a toujours été volé, ce sont les lignes électriques. Hein, puisque du côté de Lubumbashi, nous avons une électrique qu'on appelle communément le mot m'échappe. Je peux me retrouver.
Oui.
Le mot m'échappe.
Oui.
Ce sont
ces
exploitants des matières premières telles que le cuivre, tout ça, qui vont vendre dans des maisons de finance, des maisons de verre. De ce côté-là, il y a eu quand même un petit travail qui a été fait du côté de Kolozi, qui avait commencé, mais qui n'a pas abouti. Du côté de l'Angola, parce que vous savez, du côté de l'Angola, on a déjà aménagé le chemin de fer, puisqu'on devait créer une liaison entre l'Angola et du côté là de Mouchacha, du côté de Dilolo. Mais d'un autre côté, on a commencé un travail qui n'a pas abouti jusque-là. Et c'est ce travail qui devait aider notre pays à procéder au trafic minéré à partir de Dilolo. Pour partir du côté de
voilà merci.
Un peu le trafic routier.
Merci. Merci de nous avoir montré cet état des lieux de la voie ferrée dans cette partie du pays. On va prendre Eli qui est en Bandaka. Eli, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Eli, vous avez suivi Maître Sonville. Quel est votre commentaire?
Oui, mon commentaire par rapport à la thématique du jour est de savoir. Oui, on a accueilli avec succès ce projet, mais ce qu'on veut demander, est-ce qu'à l'heure actuelle, vu l'impact politique de ce qui se passe dans notre pays, est-ce que la population soutient-elle ce projet? Parce que, oui, c'est normal de faire des pareils projets, mais on se demande, ce projet a été édité sur quel tableau budgétaire? Est-ce que c'est prévu dans le budget ou bien c'est comment? Parce qu'on a vu seulement, on a acheté pour les voies ferrées, oui, c'est normal, mais est-ce que c'est prévu dans quelle provision budgétaire? On se demande comme ça.
Merci beaucoup, Élie. Alors, on revient à vous. Yacinthe Djogolo, directeur du département du chemin des fers à la Société commerciale du transport et des ports, STTP. Première question, après avoir suivi ces deux auditeurs, on aimerait bien quand même se faire une idée sur la politique commerciale actuelle de la STTP. Parce qu'avec cette acquisition, on a comme l'impression que la STTP s'est engagée dans une politique commerciale très agressive maintenant, dans les critiques de vouloir réellement faire bénéfice. Ou bien si ça rentre vraiment dans les cadres de vouloir améliorer le trafic ferroviaire. gérer, en fait, les actes gérés par la SPP.
Hier, je voudrais préciser un certain nombre de choses parce que ce soit Maître, que ce soit Élie, notre ami de Mbandaka, ils sont pas du domaine et ils ont approximativement posé des problèmes, mais si vous permettez que je puisse un peu préciser. La nouvelle acquisition qui a justifié votre introduction, c'est des voitures à voyageurs. Donc, au sommet de fer, dans ce que nous appelons matériel roulant, il y a des locomotives qui tirent soit des wagons commerciaux qui transportent les marchandises, soit des voitures à passagers. Le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'acquisition d'une rame de voitures à passagers qui a été livrée au port de Matadi le 22 octobre dernier. Donc, nous n'avons pas à parler ici de locomotive. Maître Sonville a raison, mais là aussi, il est un peu approximatif. Moi, j'ai des précisions. Il y a 18 plus 20. Je ne sais pas dans l'ordre. La Banque mondiale a financé l'acquisition des 18 locomotives pour la SNCC et le gouvernement de la République a fait le reste. Donc, la SNCC a acquis 38 locomotives neuves. Le problème qu'il soulève, vous aurez peut-être l'occasion d'inviter nos collègues de la SNCC. Je suppose que lorsqu'on a du matériel, il y a des problèmes d'organisation qui se posent aussi bien à eux que chez nous. C'est le sens de votre question que je vais vous renouveler. Alors, pour ce qui est de notre ami de Mbandaka, c'est plus facile de répondre à sa préoccupation. Nous avons un statut de société commercial à fonctionnaire unique qui est l'État congolais. Et l'État congolais se donne le moyen à travers une taxe qu'on appelle redevance logistique terrestre, vous l'avez annoncé, et qui est instituée par le gouvernement et qui est prélevée, qui est collectée par la SPP et qui n'est dépensée que sur ordre du gouvernement. C'est sur ces fonds qui est prélevé au prorata de l'activité qu'il y a dans nos ports maritimes. Qu'ont été payées les voitures à voyageurs. Alors, la matière de transport, ça touche à la mobilité des citoyens. Parce que notre ami Élie oublie que c'est un souci de tout gouvernement et de tout citoyen d'avoir la possibilité de se mouvoir, la mobilité, le transport de biens et de personnes. Ça a toujours été bien. Et dans le cas des chemins de fer, l'exploitation ferroviaire remonte à 1898, on est à 118 ans, et ça fait partie même de la culture de la population. Donc, là, le gouvernement et même la direction générale de la SCTP rencontrent un besoin réel de la population. Il n'y a pas erreur là-dessus, il peut se respirer. Donc, j'ai répondu aux préoccupations de notre ami de Mbandaka. Revenons sur celui de Lubumbashi. Donc, il comprend déjà qu'il y a une différence nette entre le locomotive et une voiture à voyageurs. Et dans les deux cas, le matériel tracté comme le voiture à voyageurs exige un peu moins d'efforts pour leur maintenance que c'est nécessaire pour les locomotives, par exemple, où il a donné des exemples. Mais là, ça renvoie la question aux méthodes d'organisation et aux méthodes de travail. Donc, il a cité quelqu'un, classe, qui avait peut-être d'autres méthodes, peut-être d'autres facilités aussi. Et je ne peux pas
de combattre. Mais on sait que la République démocratique du Congo dispose de 5033 km de voies ferrées, si les calculs sont bons, en tout cas tout autour de près de 6000 km de voies ferrées. Et aujourd'hui, la SNCC gère quand même des axes un peu très importants, avec plus de 400 kilomètres entre la ligne qui relie le port de Matadi à Kinshasa. Alors aujourd'hui, avec cette acquisition, pensez-vous vraiment améliorer, arriver quand même à offrir un service important à la population?
Rapidement, je peux vous aider. Donc, le réseau, l'ensemble du pays, ça fait à peu près 5000 km. Mm-hmm. Et au nord, on a environ 800. Et au sud-est, mm-hmm. un peu moins de 4000. Et nous avons le réseau le plus court, 366 km, qui relie Matadi à Kinshasa. Si vous voyez ceux qui ont administré le premier ce pays que nous appelons nos colonisateurs, ils ont toujours dit que l'état de notre pays a un boulevard naturel, le fleuve, les Kassai et les affluents. Même la navigation s'arrête à Kinshasa, parce qu'après Kinshasa, vous avez le tube de Kiki, qu'on ne peut pas aller à Matadi. Et ils ont bien fait de construire les 366 kilomètres. C'est le chemin de fer le plus court, mais le plus stratégique, le plus sensible, parce que c'est le seul qui permet qu'on sorte par voie indépendante à l'océan. Parce que, au sud-est, l'ami a parlé tout à l'heure, il faut passer par l'Angola pour atteindre l'océan. Alors que, dans le cas où on a mené le cube du Katanga par Ilebo, avec le tube de charge, par voie d'eau jusqu'à Kinshasa, on sortait par une voie tout à fait indépendante. Alors, à la SCTP Exploratoire, qu'est-ce qui se fait? Nous avons, depuis l'arrivée du nouveau conseil d'administration, du nouveau directeur général, compris que le sommet de fer est la voie salutaire. Pour ceux qui fréquentent l'ONAPA ou la SCTP, ils se rendent compte que nous avons deux ports, nous avons le sommet de fer et nous avons le voie fluviale. Les circonstances présentes font que...
C'est ce qu'on appelle communément dans la langage technique, les
transports multimodales. Les transports multimodales. Mmh. Mais pour le moment, l'entité qui tourne le plus, ce sont les ports maritimes. Et nous sommes exposés à une concurrence, parce qu'il y a deux nouvelles unités portuaires à Matadi, ce n'est pas un secret. Et il y a d'autres, indépendamment de ces unités, il y a d'autres contraintes. Quand on a fait allusion aux tensions sociopolitiques, certaines importations se ralentissent et nous prenons le coup. Donc, le nouveau directeur général en tête, dès son arrivée, a trouvé que le sommet de fer était moribond. Donc, il fallait le relancer. Et il a vu vite, parce que même les nouveaux ports qui sont installés à Matadi ont besoin d'évacuer compte tenu des contraintes qu'il y a à la route. Parce que si la plupart de nos importations entrent par l'embouchure pour Matadi, que ce soit le port voisin ou notre port, il peut évacuer à Kinshasa et la route est très limitée pour les fers. Et à côté de cela, nous parlons de l'export-import. Nous avons une activité qui mène entre Kinshasa et Matadi. Il y a le producteur de ciment. Donc, il y a trois industriels de ciment qui nous offrent jusqu'à 4000 tonnes par jour. Mm-hmm. Alors, pour en arriver là, il a fallu que nous puissions sortir de l'état moribond où nous étions, c'est-à-dire qu'il y avait arrêt d'activité, il y avait quelques trains marchandises, il y avait absence de trains voyageurs. Nous avons reçu de la haute hiérarchie du pays une instruction pour organiser un voyage au mois de juin 2015. C'est l'endroit qu'avait choisi le chef de l'État pour présider à Matadi. Et de là, nous avons en 20 jours réalisé un travail assez exceptionnel pour reprendre le trafic voyageur. Et après les événements, après la fête de l'indépendance, au mois d'août, le 22 août, nous avons repris une rotation du train voyageur entre Matadi et Kinshasa.
Il semble-t-il que la rotation n'est pas régulière.
La rotation est hebdomadaire. La rotation, excusez-moi, je ne sais pas quelles sont vos sources, moi je dis la rotation depuis le 22 août, elle est régulière, elle est limitée, c'est ce que je dirais. Mm-hmm. Nombreux sont ceux qui fréquentent, souhaiteraient avoir plus d'un jour. Nous
le faisons. Et généralement, quand il y a toujours des problèmes de carburant, je ne sais pas, problèmes de panne.
Je n'ai pas une seule information sur un voyage annulé, un samedi ou un dimanche. Depuis le 22 août, chaque week-end, il y a un départ et il y a une arrivée. Chaque week-end. Il y a une telle régularité que ça nous a attirés. Les entreprises et le voisin, je me rappelle, je l'ai toujours dit, et j'ai fait mon rapport à la hiérarchie, j'ai dit, le directeur commercial de la sucrière, par exemple, il est venu nous voir pour dire simplement que, je vois chaque samedi et chaque dimanche le train. Donc, vous existez. Donc, le train voyageur, nous nous sommes servis de ça. On a fait, effectivement, vous avez dit, un matraquage publicitaire. C'est pour se rendre compte que nous avons le moyen d'offrir un service. Il n'est pas le meilleur, mais c'est un service que nous offrons à tout voyageur qui veut aller de Kinshasa à Matadi ou dans le sens inverse, de choisir entre l'avion, la route et le rail. Nous convenons que nous sommes limités pour le moment en week-end, mais la nouvelle acquisition pousse pour discuter, en plus maintenant, introduire une nouvelle rotation et les efforts pour retrouver ce qui était dans le temps On avait chaque jour un départ de Matadi, un départ de Kinshasa avec Wazuman.
Et déjà la reprise de ce trafic sur la ligne de Kinshasa-Matadi, quel est l'impact que cela a eu sur d'abord la santé financière de l'entreprise, de la CPT, et puis l'impact sur l'environnement de la société?
Bon, si vous vous renseignez, le trafic voyageur, même dans les sociétés occidentales, dès le moment qu'on arrive à peu près à se prendre en charge ou à supporter les coûts de l'exploitation, on est bon, on ne cherche pas à tirer les bénéfices. Il n'y a que le trafic marchandise qui paye. Mais ils sont liés. Je voulais vous dire tout à l'heure que la circulation régulière attire l'attention des clients et ils sont de plus en plus nombreux à nous offrir maintenant
du demander des services
à vous. Alors j'ai dit, il y a un an, nous étions complètement malades. Aujourd'hui,
vous commencez à reprendre un peu le point d'arrêt.
J'ai toujours l'expression, je l'ai dit hier à madame le PCA de notre entreprise, quand elle me demandait comment ça va chez toi, j'ai dit écoutez, nous étions moribonds à votre arrivée, nous étions admis à la salle d'urgence, maintenant nous sommes admis en pavillon, et les efforts sont faits qu'en 2017, nous devons quitter les pavillons pour que nous devenions des malades ambulatoires.
Alors, juste une curiosité, peut-être une question qui va vous faire rire, hein, vous ne serez peut-être pas la meilleure personne à y répondre. L'acquisition des 10 voitures, les retraités de la SCTP souhaiteraient peut-être que cet argent puisse leur servir pour le paiement de la rente.
Bon, il y a toujours la question de la poule et de l'œuf. On mange l'œuf, est-ce qu'on aura encore de poule? Oui, on mange la poule, on aura encore de l'œuf. La situation, on peut pas s'y cacher. Est-ce que c'est les
deux? Pendant un certain moment, ça se le fait quand même étonné. Je sais que bon, c'est juste une parenthèse qui est ouverte rapidement.
Non, mais vous avez raison. Mais oui. Moi, je vous
dis le fait de vous avoir, comme on en profite, on fait quand même.
Vous avez raison.
Pour éclairer quand même l'opinion.
Oui. Non. Nous avons des problèmes à résoudre. L'argent viendrait d'où si on n'a pas l'outil de production. Et quelque part, on doit prendre une décision, on va souffrir pour trouver des solutions. Donc, l'acquisition du matériel. Cette enveloppe aurait servi de liquider les arriérés, et après on ferait quoi? Par contre, l'avenir de ces matériels peut aider à trouver de l'argent pour qu'on résolve
le problème. Voilà, on va rouvrir le standard avec Maître Adrien, Jean-Claude qui est à Kindou, et Maître Omar à Kinshasa, 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Maître Adrien, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles Lungembo. Bonjour à monsieur l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci, Gilles, de la parole que vous m'accordez. Je pense que à ce stade de débat, il est vrai qu'il y a eu de nouvelles acquisitions, donc dans le chef de l'SPT, exponentielle bien évidemment. Mais la question que tout le monde se pose, il est aussi vrai que l'SPT est une société commerciale avec l'État congolais comme l'unique actionnaire. Bon, maintenant la question que tout le monde est en train de se poser est que ces acquisitions-là, c'est sur le cahier de charge du comité de gestion de l'SPT ou bien c'est le gouvernement lui-même qui a voulu doter donc la société de ces matériels, parce que il est vrai, l'invité a dit ici que la SNCC ainsi de suite, patati patata, mais il est vrai aussi de dire que les réalités ou les problèmes que connaissent la SNCC n'est pas du tout différent de problèmes qu'a l'SPT aujourd'hui. La priorité pour l'SPT, à mon humble avis, ce n'était pas d'abord des voitures roulantes, parce qu'aujourd'hui, ils sont battus. Je me demande ces voitures-là vont rouler sur quelle voie, parce que la voie d'abord, c'est l'action principale que l'SPT et le gouvernement devaient d'abord avoir un œil vigilant. Parce que nous avions connu même toute cette réalité-là avec la SNCC. On a doté la SNCC de matériel. Mais à partir du moment où on ne songe pas sur la voie elle-même, donc ce qu'on appelle communément le rail, ça pose un problème. C'est comme qui dirait, on veut à tout prix résoudre un problème, mais on en crée un autre. C'est comme ça que moi je me dis, pour ne pas scandaliser l'invité qui a dit qu'il a toujours dit, il était dans une salle d'urgence, aujourd'hui il est dans un pavillon. Oui, mais bien évidemment, vous pouvez échapper la mort dans une salle d'urgence, mais vous mourrez dans le pavillon. C'est comme ça que moi je dis, l'SPT devrait d'abord chercher la priorité donc, de ses actions. Qu'est-ce qui est priorité? Donc, prioritaire aujourd'hui pour la relance de cette entreprise. Parce que lorsque vous posez la question à l'invité, quel est l'impact vous avez par rapport à cette nouvelle acquisition? Mais il ne vous répond pas à la question.
Non, la question c'était pas par rapport à cette nouvelle acquisition, mais c'était plutôt par rapport à la remise, en fait, la reprise, hein, du trafic ferroviaire entre la ligne Kinshasa-Matadi. Quel a été l'impact sur le plan environnemental, la société dans laquelle nous vivons, et quel est son impact aussi sur la santé financière? Bon, voilà, c'est là où l'invité a parlé, disons, en métaphore, avec l'image de salle d'urgence, et puis, pavillon, vous avez répondu comme vous l'avez voulu. Donc, c'est pas par rapport à cette nouvelle acquisition, mais par rapport plutôt à la reprise du trafic ferroviaire depuis 2014-2015. Voilà.
Ok, merci beaucoup, Gilles, pour la relance. Je pense que, hormis la première priorité que je venais d'invoquer, le problème de rail, moi, je pense qu'il faut se précipiter pour chercher les voitures. Pourquoi? Parce que, lorsque je prends la réalité de la SNCC, lorsque je cause, parce que je suis moi-même un fils cheminot, je sais de quoi je parle. Lorsque vous posez la question aux responsables, ils vous disent que, entre une voiture, un wagon par exemple, et nous préférons un wagon. Pourquoi? Parce que dans le wagon il y a donc les bénéfices par rapport à une voiture, parce que la voiture il y a le fraudeur et ainsi de suite. C'est un cas monnaie courante partout, il y a ceux-là qui montent là-dessus et la société ne gagne presque rien, mais avec un wagon, oui il y a quand même possibilité
de rentabiliser. Oui, de capitaliser. Voilà, merci. Alors, parce qu'il s'agit d'une préoccupation directe, je crois qu'on va quand même demander à notre invité de répondre. Est-ce que le rail aujourd'hui, c'est une priorité pour Adrien entre une voiture et un wagon? Un wagon, c'est l'idéal, c'est d'avoir un wagon, parce que là, c'est plus sécur.
Maître Adrien, je crois que je participe à l'émission à remplacement de M. le directeur général de la STP qui est empêché. J'ai pas eu le temps de préparer l'émission avec JR, on l'a pas structuré. Mais sinon, je pouvais faire une communication plus élaborée. Mais cela ne me gêne pas de vous dire rapidement ceci. Le chemin de fer, permettez-moi, j'ai travaillé là-bas jusqu'à ma 32e année. Il a trois composantes essentielles. L'infrastructure, c'est-à-dire la voie ferrée, le rail, le traverse et le ballast. Et puis, vous avez le matériel roulant, j'ai dit le locomotive, le wagon, la voiture à voyageurs. Et ensuite, il y a les communications pour ce qui est de la circulation sécurisée. Nous ne travaillons pas seulement sur la question des voitures à voyager depuis 2015. J'ai été rapide, parce que si les minutes sont comptées, j'ai résumé en disant que lorsque le chef de l'État a décidé de voyager par train le 9 juin, il a décidé pour qu'il arrive avant le 30 juin. Par terre, on n'a pas fait que le voiture. Et même le voiture vient d'arriver maintenant. Là, on était en 2015. Donc, il y a eu en amont des actions menées. J'ai dit que le nouveau directeur général nous a imposé un rythme de travail en 20 jours. Nous avons traité les points critiques de la voie pour assurer le passage. Et nous avons eu le bénéfice d'avoir même un vice-premier ministre, en l'occurrence celui de l'Intérieur, qui s'est offert pour participer à l'essai avant que l'autorité ne puisse voyager. De cet effort-là, je l'ai dit, on est arrivé au résultat de reprendre le trafic voyageur qui était interrompu depuis 10 ans plus tôt. Et quand on reprend le trafic voyageur par rapport au terme marchandise, il est parlant, il est visible. Donc, vous transportez des sujets qui parlent, qui rapportent. Et il est observé par les gens. Et ça a attiré aussi bien les clients. Je vous ai dit que les industriels de ciment nous proposent des charges, Nous avons d'autres clients traditionnels qui traitent avec nous depuis. Et ça n'a pas laissé également le gouvernement indifférent. C'est ainsi que le Premier ministre, lui-même, il va écrire une note pour dire que, afin de préserver les efforts consentis par le gouvernement pour l'entretien des routes, il y avait lieu d'encourager le chemin de fer dans ces efforts. Et je peux me permettre de dire ici que nous avons eu à bénéficier d'une allocation de 10 millions, un peu plus de 10 millions de dollars, et nous avons affecté cela aux travaux de la voie. Si vous connaissez Kinshasa, la voie n'était pas praticable entre Matete et Kimouza lorsqu'il pleuvait. Si c'était à la télévision...
À Kasangoni, c'était encore pire.
Voilà.
La voie
si c'était à la télévision, parce que moi j'ai mes images dans mon laptop, je pouvais vous les montrer. Donc, nous avons entrepris, à partir de ce moment-là, un travail. Et qui n'a pas laissé insensible, excusez-moi, c'est peut-être très sensible, mais le chef de l'État lui-même qui a décidé d'offrir à la population et à la SCP pour nous encourager les voitures à voyageurs. Vous avez raison de dire, ce n'était pas sur un plan d'investissement, c'est une action politique, mais qui est bénéfique dans le sens d'encourager les efforts qui étaient déjà perspectives. Donc, la RLT, c'est un moyen par lequel le gouvernement nous donne le moyen de travailler sur la voie. Et croyez-moi, on y travaille. Nous avons réhabilité 5 grésines. Si vous êtes dans la famille de Chanel de Père, les grésines, ce sont des engins qui permettent de transporter les équipes d'ouvriers sur la voie et les outillages. Donc, nous avons sur notre parc qui devrait faire des sexes, nous avons la possibilité maintenant de réparer, de rééquiper 5 nouvelles grésines. Donc, 2 sont déjà en service et 3 autres vont bientôt être là. C'est pour traiter la voie. Nous avons également réhabilité des locomotives avec ces fonds. Donc nous avons un ensemble d'activités qui attirent et les clients et l'État propriétaire. Je pense qu'à ce niveau-là...
Voilà, on va écouter Jean-Claude qui nous arrive également et Maître Omar. Jean-Claude, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Romain Nguembo et bonjour aussi à l'invité qui est avec vous et à tous les millions d'auditeurs internes de Radio 4.
Oui, quelle est votre contribution?
Oui, j'ai juste ma petite contribution. Julien, permettez-moi, je ne sais pas si je serai très, très dur avec l'invité, mais sinon...
Avec des mots un peu très bien posés, hein? Allez-y.
Tout à fait. Oui, Julien. Moi, d'après moi, je vois que le problème des nouvelles acquisitions est... Moi, je suis à Kim. Et ici, à Kim, nous avons la SNCC. Les nouvelles acquisitions, je ne sais pas, sinon des locomotives, pour moi, c'est un mauvais événement. Pourquoi? Laissez-moi m'expliquer. Nous l'avons vu à un moment donné, depuis 2010-2011, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons vu comment et on a inauguré les nouvelles acquisitions. Tambour Bata, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kalemie, que ce soit à Kindu, et dernièrement, ici récemment, à Kisangani, où nous sommes, nous avons vu le premier ministre et chef du gouvernement, avec notre gouverneur, le gouverneur de la Tchopo, en train d'inaugurer les deux locomotives qui doivent relier la Ubundu et Kisangani.
Kisangani Ubundu.
Kisangani Ubundu. Mais le problème que je me pose, nous ici, on ne sent pas cette irrégularité. Nous sommes un tout petit peu, hein, c'est comme quelqu'un qui dit on est en train de faire beaucoup de chantage alors qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est comme un auditeur qui m'a précédé qui a parlé. On est en train aujourd'hui d'acheter des voitures, sinon des wagons et d'autres histoires, alors qu'on ne parvient pas à améliorer les conditions sociales, n'est-ce pas, de lambda, du commun des mortels qui travaillent, par exemple, ici chez nous à la FNCC. C'est ça le problème que moi, je suis en train de me poser. À quoi bon de pouvoir, n'est-ce pas, acheter ou avoir de nouvelles acquisitions au moment où on ne parvient pas, n'est-ce pas, à pouvoir améliorer les conditions sociales de ceux qui travaillent. Ça, c'est de un. Nous sommes en train de voir, par exemple, dernièrement ici, on nous a dit que non, en tout cas, Kindu, Kongolo, vous aurez des nouvelles voitures et vous aurez aussi des locomotives qui vont réduire. On nous a dit c'est à peu près 4 ou 6, je ne sais pas moi. Mais on ne sent pas vraiment, on ne voit pas, il y a beaucoup de difficultés. Alors qu'à l'époque, où nous sommes des enfants, par exemple, moi j'étais à Samba et à Kongolo, on voyait, il y avait cette régularité. Et on achetait les histoires de Lubumbashi et de Kalemie à vil prix. Mais ici, on ne sent pas ce changement-là. C'est cette question que moi, je suis en train de me poser. Pourquoi et comment ça, Jérôme?
Oui, alors, Jean-Claude, je crois que notre invité va vous éclairer là-dessus. Mais il faut noter que les entreprises dont on parle aujourd'hui, la SNCC ou encore la SCP, ben, c'est vrai, par rapport à l'acquisition, à cette nouvelle acquisition de la,
de la SCTP, ont quand même passé des moments un peu très, très, très difficiles. Ils avaient, dans leur réseau respectif, perdu des grandes parts du marché suite à l'état lamentable de voies ou des infrastructures ferroviaires. Alors donc, il y a quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on doit relancer, il y a aussi beaucoup de paramètres qui entrent en ligne des comptes. Donc, il faut vraiment tenir compte. Alors, Maître Omar, et ta question, ça, il nous a raison. Maître Omar, bonjour.
Bonjour, J.R. et bonjour à l'invité.
Donc, quel est votre avis, Maître Omar?
Merci beaucoup, J.R. de la parole. Avant tout, je tiens à féliciter le gouvernement à travers ces entreprises parce que l'une ne peut ignorer qu'en ce jour, il n'y a pas de développement possible si l'activité du transport pose encore problème. Félicitations pour l'acquisition de nouveaux matériels, qui est l'une des conditions de bon transport routier. Je ne voudrais pas revenir sur l'aspect des voies ferrées ou encore des rails, comme on l'appelle communément, parce que l'invité a fait son aveu de déficit informationnel, et je pense qu'il n'a pas assez d'informations, comme il a dit lui-même, donc ça reste une priorité. Alors je voudrais rapidement parler de l'impact, tout ce qui m'intéresse. Moi, dans ma vie, je ne m'intéresse pas à l'acte, mais plutôt à sa cause et à l'impact qu'il peut générer. Il y a dans le domaine de gestion des services publics 5 modes, parmi lesquels on retrouve le mode qu'on appelle entreprise publique. Quel est le cas de la SCP ainsi que de la SNCC? Quel est l'impact de cette relance du transport routier sur le plan du développement de l'État? Moi, je pense ici à l'entreprise publique à l'instar de la SCP ou encore de la SCP est créée pour deux missions. La première mission, c'est rendre service à la population, à savoir les transports, et aussi à remplir le service de l'État. Je pense que si la gestion est réelle, on pourra, n'est-ce pas, avoir un impact positif parce que les recettes générées pourront, n'est-ce pas, profiter pour augmenter le volume budgétaire. Deuxième part, sur le plan de la société, ou sur le plan des pays qui doivent être bénéficiaires des services publics, que l'État est reconnu lorsqu'il rend service à la population. C'est là que l'inquiétude monte et c'est là que le bas blesse pour dire que on peut bien traiter ce problème de la voie ferrée si cela est quotidien régulier. Aujourd'hui, j'ai fait un tour à la gare centrale, j'ai remarqué avec des matériels qui sont quand même roulants, c'est pas neuf, mais c'est pas régulier. Et je pense qu'à ce niveau, il y a encore des efforts qui doivent être fournis. Deuxième chose, il faut parler maintenant de la flexibilité à ces moyens de transport. À l'époque, je me souviens, il y avait deux trains, il y avait un train qu'on appelait Kibolabo et le train bleu. Le train bleu était réservé à ceux qui étaient très nantis, et le train Kibolabo était réservé à ceux qui étaient moins nantis. Aujourd'hui, un seul train n'est pas neuf. Je doute fort que le prix qu'on puisse fixer puisse être accessible à toutes les bourses. Et je pense que si on rend seulement service à une certaine catégorie minime sur l'aspect de la société, en tout cas, le service n'a pas été rendu. Parce que l'entreprise publique n'a de sens que tiendra réellement des services à la population, surtout la plus basse. Autre chose, j'y ai. Sur le plan des agents eux-mêmes ou de l'entreprise elle-même, l'impact. Aujourd'hui, l'invité a dit qu'il a fait 32 ans là-bas. Parlons de la SCP, parce que les services sont directement liés. Quelle est la condition dans laquelle vivent ces agents? Et vous savez, celui qui est mort perd son âme, celui qui revendiquait souvent les syndicats, les missionnaires des syndicats, avait crié, faisait des émissions pour dire que les conditions n'étaient pas bonnes. Alors je me pose la question, est-ce que les recettes générées profitent réellement aux agents qui sont là depuis qu'ils ont relancé? Parce qu'on parle de l'impact aujourd'hui. Sur le plan de l'entreprise elle-même, s'il y a eu réforme en 2008 des entreprises publiques, c'est pas qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient contre-productives et elles étaient devenues comme des canards boiteux. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avant 2008 égale après 2008 par rapport à la gestion. Je me demande, est-ce que les recettes générées ont vraiment une canalisation logique de la direction financière?
Maître Omar, je crois que juste une question pour faire avancer quand même le débat. Vous êtes sans ignorer que l'année dernière, nous avons réalisé une émission Parole aux auditeurs spéciale à Matadi. Au centre du débat, il y avait notamment cette question sur la cession d'une partie des infrastructures de la SNCP, parce que vous avez cité Péa Sonam, Lambert Ostango, qui a dirigé de baie des maîtres le syndicat qui défendait la cause de la TRAN. Nous l'avons eu aussi au cours de cette émission, qui, en fait, avait exprimé la volonté de la majorité des agents qui refusaient, en fait, ce projet de cession d'une partie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, pour arriver réellement à atteindre le résultat, il faut qu'on aille vraiment, qu'on prenne quand même ce chemin-là, de pouvoir céder une partie de la structure ferroviaire?
Merci beaucoup. Notamment. C'est ce qu'on appelle en droit public la concession de services publics, où l'État peut signer des contrats avec des privés pour la cession d'un service public déterminé, et ce service qui a signé les contrats, le service privé, c'est payé par des péages. L'idée est bonne, JR. mais je l'ai toujours dit lorsque j'avais reçu M. Kimbembe, ce n'était pas encore opportun pour la RDC. Qu'est-ce qui va se passer hier? Et pourquoi M. qui est mort s'en opposé? Premièrement, lorsqu'on fait une concession de certaines prestations à un service particulier, le service particulier n'est pas une ONG. Il dépense son argent. Et comment se fait payer un concessionnaire? Il se fait payer par ce qu'il fiche compris auprès des usagers. Et si l'État arrive déjà à payer des prix élevés, et qui est terrain privé qui a beaucoup dépensé, ce sera la conséquence financière dont on a peur. La concession est une bonne chose, le pays développé annoncé, mais il y a encore des conditions de vie des Congolais. Parce que lorsqu'il y a concession des services publics, l'État cède, et pour l'intérêt général, bien sûr. Mais les usagers doivent payer le prix,
soit
par les nouveaux concessionnaires, et ce qui est difficile parce que, les deux, par rapport aux agents eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils donnent? Dans un contrat, il faut faire ce qu'on appelle un lettre win-win. Mais dans les contrats que nous signons dans l'entreprise publique, ou les contrats de l'ONU, c'est le privé qui est une grande partie. Et lorsqu'on lit les contrats qui étaient signés ces projets-là, on se rend compte que vous avez beaucoup d'État et ça préjudicie les droits des travailleurs.
Voilà
pourquoi je réponds en disant, la concession est une bonne chose, mais à l'état actuel des choses, vu la précarité dans laquelle vivent les Congolais, ce n'est pas encore possible.
C'est pas
et c'est ce qu'en disant hier, la vraie problématique se pose au niveau de la gestion. Ce qu'on a toujours déploré, c'est la gestion de nos services publics. Les matériels ont été mobilisés, les recettes seront générées. Si ces recettes sont rationnellement gérées,
je pense que l'acquisition de ces 10 nouvelles voitures, c'est pratiquement la réponse à votre préoccupation, parce que c'est selon l'information, ces engins sont acquis grâce à la redevance logistique terrestre. Quand donc on peut dire que c'est le fonds propre de l'entreprise.
Merci, JR. Je pense que J'ai beaucoup parlé, je regrette de ne pas avoir fait comprendre. Je vais reprendre. La situation de CFMK, chemin de fer matériel de Kinshasa, tant sous le plan de la voie que du matériel roulant, est très différente de celle de la SNCC. Nos amis de Kindu ont une expérience, je voulais dire ici, qui est très différente de la nôtre. Je vais insister, le dire en termes plus simples, la voie chemin de fer Kinshasa-Matadi est praticable. On quitte samedi à 7h30, on arrive à 15h30 à Matadi, et on repart de Matadi. Dimanche à 7h30, on arrive à 15h30 à Kinshasa. Ça, c'est une donnée vérifiable. Je voudrais que Maître Omar, qui habite Kinshasa, s'il a affaire à Matadi, emprunte notre temps. Je suis heureux qu'il ait constaté l'état de propriété dans la gare. C'est un signe, parce que nos problèmes étaient multiples. Ça allait même de la simple propriété. Maintenant, au moins, on sait qu'il y a ici des gens qui occupent, il y a une activité qui appartient à quelqu'un. Je suis heureux qu'il ait vu le voiture, parce que pour certains, ça n'existait pas, c'était même pas de voiture neuve. Je suis heureux qu'il ait vu ça. Alors, j'ai dit, pour mettre au mal, s'il a l'occasion, il peut venir me voir, il va faire un voyage, la voie est praticable. Moi, je suis un technicien de la voie ferrée. Je ne dis pas j'ai une meilleure voie. Je dis j'ai une voie praticable. Je ne la compare pas à celle de la SNCC parce que je n'ai pas été là, ni à Kindu, ni à Lubumbashi. Donc, pour les amis qui...
Des trains voyageurs, qui vont là-bas, et puis...
Alors, maintenant, la préoccupation de maître est la nôtre également. Le train voyageur, j'ai dit, si je ne me suis pas fait comprendre, il est en exploitation depuis 1898. Ça fait 118 ans. Donc, il y a au moins 4, 5, 6 générations de population de la région du Congo central qui sont des habitués de train. Le premier voyage que nous avons fait, vous allez remarquer, à l'arrivée dans des gares, les populations, pour certaines localités qui sont éloignées de la route nationale, étaient heureuses de vendre leurs produits aux voyageurs qui passent. Ça, c'est un impact. Les distances sont raccourcies et le prix, effectivement, nous avons tenu compte de ça pour nous mettre au niveau de la route. Nous ne faisons pas, vous avez posé cette question, nous ne cherchons pas là-bas à faire de bénéfices sur le passager. Nous disons, dès qu'on peut équilibrer les charges, nous sommes contents. Ça attire, ça produit un autre effet, ça attire le marchandise qui paye. Alors parlons de marchandise. J'ai dit ici que les industriels de ciment, il y a un à Mikilo qui va produire 2500 000 tonnes par an, il y a un autre qui s'installe à Malanga qui va produire 1 100 000 tonnes, il y a un que nous connaissons à Lukala, qui produit aujourd'hui 400 000 et qui va passer à 800 000 tonnes. Tous ces entreprises disent ceci. Nous n'avons pas la route pour amener, nous devons passer par le chemin de fer. Ils nous ont dit,
ils doivent passer par nous, ils doivent nous aider à trouver des solutions à nos problèmes. Donc je reviens à celui qui parle de la voix. Donc nous avons des projets très précis. Je n'ai pas préparé ici, je ne suis pas si autorisé parce que je suis mandaté pour dire tout ce qui est de la stratégie de la direction générale. Mais je peux me permettre de dire que ça intègre tout, aussi bien les communications, l'état de la voie ferrée, que le matériel roulant. Alors, l'impact sur la vie économique. Vous avez raison, Maître Omar, mais je laisse moi vous dire. Nous savons tous que il y a du ciment qui est vendu, qui vient d'un pays voisin. Il y a même des mesures gouvernementales qui essaient d'empêcher ou favoriser l'industrie locale. Moi, j'ai eu à accompagner ma hiérarchie au cours d'une réunion avec les industriels de ciment. Ils ont dit, nous devons réduire nos charges. Parce que dans tous les pays du monde, on dit, quand le bâtiment va, le pays va. Donc, il y a deux produits essentiels pour ces cas-là. Il y a le ciment et l'acier. Quand on résout ce problème-là, si chaque citoyen peut accéder facilement à l'acier, si chaque citoyen peut s'acheter son sac de ciment dans la gamme de 3 à 5 dollars le sac, on peut créer un essor dans l'économie du pays. Et les éditeurs du ciment, quand ils parlent avec nous, ils commencent à discuter, ils ont dit, par exemple, nos tarifs, comment ils étaient si élevés. Donc, nous avons des actions à mener sur eux, avec eux, parce qu'eux, ils nous offrent une charge précise, donc nous n'allons peut-être pas gagner sur le tarif, nous allons gagner sur la quantité transportée mise en œuvre. Nous avons avec des engagements pour nous encourager et pour même préfinancer certaines opérations. Donc, je ne suis pas dans un tableau désespéré, je suis plutôt dans un tableau d'espoir. Quand moi j'ai annoncé les 2017 que nous allons sortir, c'était pas en l'air et je suis d'accord avec le maître Omar, l'émission du sommet de fer, c'est pour rendre service à la population des riverains et pour participer à l'activité macroéconomique. Et là, nous sommes...
Alors, l'ami, est-ce qu'on a d'accord sur la concession
excusez-moi. Alors, pour ce qui est de l'accès, parce que la voiture que nous voyons, qui vient d'arriver, c'est un standing élevé. Alors, la route aujourd'hui, le prix bas pour régler ma tête d'acquisition, c'est 15 000 francs. Nous avions un tarif pour notre deuxième classe à 15 dollars. Avec ce qui arrive autour de 2 dollars, nous sommes plus chers. Si vous venez maintenant dans nos gares, vous allez trouver que nos voitures deuxième classe ne sont pas aussi bien remplies que nous l'étaient avant. Alors, nous avons, pendant le transfert de la nouvelle rame de matériel à Kinshasa, enregistré dans une localité un jet de pierre, une caisse. Ça nous a rappelé qu'avant cette nouvelle voiture, même la rame qui est en exploitation, il y a toujours eu des jets de pierre. Quand j'ai discuté avec la hiérarchie, j'ai même discuté avec son assurance, le ministre des Transports, qui était avec nous dans la voie, j'ai dit, cette catégorie de population nous pose un problème. Ça, nous faisons pour une certaine catégorie, nous devons rencontrer leur objet, c'est-à-dire remettre le train omnibus et le train Kibola-Bola. Qui, lui, il s'arrête dans toutes les gares, parce que le train express, il s'arrête dans certaines villes, pas toutes les gares. Donc, nous avons ça également en programme d'ici la fin de l'année. Nous devons rencontrer cette préoccupation, augmenter la rotation des trains express, mais également offrir à la population des trains qui lui conviennent.
Voilà, on va recueillir également notre point de vue, et puis on revient à vous, parce qu'il nous reste encore une vingtaine de minutes. Salomo et Taku Sangali, Maître Dominique Amboujimaï. Salomo, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, vous avez suivi vos prédécesseurs ainsi que notre invité à ce niveau de débat. Qu'est-ce qui vous a apporté comme ajout à cet échange?
Merci de m'avoir accordé la parole. Sur le sujet d'aujourd'hui, je voudrais d'abord, en premier lieu, féliciter l'initiative de notre gouvernement. En deuxième lieu, la question que je vais tout droitement poser à notre invité, concernant le cas de la voie ferrée qui relie Kisangani jusqu'à Bundu. Ma deuxième préoccupation est celle de savoir si le salaire des travailleurs, parce que on a déjà entendu beaucoup de cas de la SNCC où les fonctionnaires ne touchent pas de leur salaire. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire
Voilà.
Merci.
On comprend votre souci, c'est en rapport avec le social des agents au niveau de la SNCC. Bon, c'est pratiquement comme l'a dit un des auditeurs, le même tableau, même à la SNCC. Mais pour ce qui concerne les tronçons, les trafics ferroviaires entre Kisangani et Ubundu, alors nous vous signalons qu'il y a quelques jours, le Premier ministre avait inauguré ce trafic, donc qui n'est d'ailleurs même pas à la charge de la SNCC. Mais c'est bon, là, c'est une autre entreprise qui s'en occupe. Voilà. Nous parlons de cette acquisition qui relance les débats sur les renforcements des transports par voie ferrée en RDC. Maître Dominique, quel est votre commentaire? Vous êtes à Mouzoumaï.
Ok, merci bien JR, hein, merci bien. Malheureusement, notre invité dit qu'il n'a pas assez d'informations pour la SNCC. Mais par rapport à la SNCC, je voudrais qu'il nous dise peu à la date aujourd'hui, hein, depuis le jour de l'inauguration, ils en sont où? Leurs prévisions là, est-ce qu'ils les ont atteintes ou comment? Parce que ils les ont atteintes ou comment? Parce que le jour de l'inauguration, on nous avait fait tout un chapelet d'objectifs à atteindre. À la date d'aujourd'hui, à l'entendre parler, ils sont en train de procéder.
Oui, vous, maître Dominique, vous parlez de la période où la SNCP avait lancé donc officiellement la reprise des trafics ferroviaires qui sont à Matadi.
J'ai vu le ministre, le premier ministre, beaucoup de gens, et il y a eu des grands discours. À la date d'aujourd'hui, ils en sont où? Parce que ça, c'est pour, par rapport à Matadi et Kinshasa. Monsieur Gier, vous vous souvenez, en 2011, vous et nous, on a fait encore ce débat ici avec le ministre Kabouéloulou, si vous vous en souvenez.
Tout à fait. À l'époque où il faisait le ministre des Transports, oui.
À l'heure actuelle, nous prenons la SNCC. Je vais vous dire ceci. C'est bien beau de faire des discours, c'est bien beau d'acheter des locomotives, mais comment les a-t-on classées? Parce que nous sommes au Kassai. Le Kassai, normalement, dépend du train. Mais, s'il vous plaît, nous arrivons même à des moments où vous vous rendez compte que vous faites une semaine, il n'y a pas de train. Or, du temps de Mobutu, où Mobutu mourait là, du temps de Mobutu, on pouvait avoir le même jour 5 courses, aller comme retour. Mais à l'heure actuelle, nous sommes presque à vivre. Donc,
oui,
ils font des propagandes, mais en réalité,
Dominique,
on ne fait plus.
Il faut toujours retenir une chose. Il y a un adage qui dit « autre temps, autre mœurs ». Il faut aussi retenir qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué au fil du temps, de difficultés qu'ont connues certaines entreprises, et jusqu'à nous amener, même au niveau de la décision du gouvernement de pouvoir transformer certaines entreprises qui étaient en tout cas en grande partie des entreprises publiques aujourd'hui qui évoluent comme entreprises commerciales, entre autres la SNCP. Il y en a d'autres pour ne pas citer. Il y a beaucoup de choses qui sont passées au fil des temps. Nous pouvons dire que s'il y a des efforts aujourd'hui qui sont menés et qui sont organisés, notamment pour le cas de la SNCP avec cette redevance logistique terrestre, il y a déjà des signaux forts. Je crois que, comme l'ont dit vos prédécesseurs, il y a quand même de quoi à pouvoir encourager cette initiative.
S'il vous plaît, vous avez raison, M. Gier. Hein, je vois, vous avez pitié de ce qu'ils sont en train de faire. Mais sinon, lors des campagnes, on nous a montré les trains du temps de Mobutu, on nous a montré des photos, qui chez nous, peut-être que là, vous ne les avez pas vues. On nous a montré des pancartes du temps de Mobutu, de ce que quand Kabila est entré au pouvoir, et de ce que cela pourra devenir dans cette situation de modernité de la révolution, quoi. Là.
Voilà, on va écouter.
C'est par rapport à ça que nous voulons évaluer.
Voilà, pour vous aider, maître Dominique, on va quand même écouter notre invité qui va quand même répondre à votre préoccupation.
Je voudrais revenir rapidement sur une préoccupation de maître Omar à laquelle je n'ai pas répondu, c'est la réforme décidée en 2008. Je voudrais dire à maître Omar qu'elle n'a pas encore abouti, elle a atteint une phase plus avancée, mais elle n'a pas encore abouti. Donc, le discours sur la mise en concession, avec l'action du syndicat, de l'entreprise, et même avec la nouvelle direction n'est pas de nature à accélérer, parce que si on veut aller à la mise en concession, la philosophie veut que quand on va se retrouver sur la table de négociation, que nous ayons une certaine valeur pour que tout ne soit pas bradé. Donc l'expérience, par exemple, des clés dont on a fait allusion, il ne faut pas que celui qui vient il a eu l'impression qu'il va commencer à tout refaire. Il y a quand même une valeur et ça peut mettre le gouvernement propriétaire pour le moment de l'entreprise dans une bonne position. Alors, Maître Dominique, je pense que nous parlons des choses qui sont très différentes. Il fut un temps, effectivement, du temps de l'ancienne République où on avait une seule société nationale de chemin de fer avec des régions différentes. Alors, nous ici, je voudrais bien le répéter, nous sommes une entité au sein de la SCTP qui exploite le transport fluvial et les ports maritimes et les transports ferroviaires. Nous sommes indépendants de ce qui se passe à Kindu, à Lubumbashi et Ilebo, Lubumbashi. Excusez-moi, vous allez dire que comme je suis de domaine, j'ai des informations, mais je ne suis pas la bonne autorité pour dire certaines choses. Et même en termes de rémunération, permettez-moi de dire que si on peut s'exprimer en termes d'arriérés, vous pourrez appeler les syndicalistes de la SNCC et de la SCTP, vous allez voir que le niveau de retard des arriérés, c'est très différent. Nous avons des situations très différentes. Et je n'ai pas vu le Premier ministre le 22 août avec un discours quelconque quand on a lancé le train voyageur qui est en exploitation. Si lui qui vient d'arriver le 22 octobre, il est en train d'être mis en service par les techniciens de l'entreprise qui a vendu. Je pense que la semaine prochaine, on va terminer la réception technique et les voitures seront officiellement mises à la disposition de notre exploitation. Donc, c'est prématuré de juger ou de décider de quelque chose. Mais si vous voulez, le train qui a été lancé depuis le 22 août, j'ai dit ici qu'il est régulier et il nous donne satisfaction. J'ai des données, si on était à la télévision, vous pouvez les exposer et vous pouviez le voir.
L'impact est réel, l'impact au niveau de l'entreprise et également au niveau de la société dans laquelle nous vivons.
En tout cas, à Kinshasa et à Matadi, et tout le long du parcours, les gens savent que le train est régulier. Et ils nous demandent d'augmenter la rotation et nous y allons prudemment, nous allons le faire bientôt. Et introduit même le train au milieu de ce qui intéresse une plus large couche de la population.
Alors, par rapport à au volume de l'activité économique au niveau du Congo central, parce que c'était ça, il y a des industriels, il y a également les importateurs qui utilisent ces taxes. En tout cas, il y a une influence terrible, c'est ça, il faut le signaler. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avoir une seule ligne, en tout cas une seule voie ferrée, qui, au fait, quitte Kinshasa pour Matadi suffit pour résoudre réellement le besoin économique qui nous guette, ou carrément peut-être il faut déjà penser à une deuxième voie.
Nous sommes en voie unique, effectivement, c'est-à-dire que nous n'avons qu'un seul, en technique ça s'appelle voie unique. Et la capacité installée, si le niveau d'entretien est bon et que vous avez le matériel qu'il faut avec une bonne organisation, permet à cette voie-là d'évacuer jusqu'à 3 millions de tonnes, sinon 4 millions de tonnes l'an. Moi, quand j'ai commencé, nous faisions 100 000 tonnes le mois, c'est-à-dire on évacuait 1 200 000 tonnes. Nous n'avons pas encore ressenti les besoins de doubler la voie.
Voilà, vous allez préparer ça juste après les flashs d'information, le temps de rappeler à tous ceux qui viennent à peine de me rejoindre, de composer les 081-890-6315 pour intervenir en direct. Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Nous avons dans ce studio M. Hyacinthe Diogolo, directeur du département des chemins de fer à la Société commerciale des transports et des ports, la SCTP. Voilà, monsieur Hyacinthe, avant le budget d'information, je vous posais tout à fait juste une question et vous nous avez fait savoir qu'il n'y a pas une nécessité de doubler la voie ferrée aujourd'hui pour aider Matadi et Kinshasa.
Exactement, parce que la capacité installée n'est pas exploitée complètement. Donc, cette nécessité ne s'exprime pas à l'heure qu'il est. Quand nous serons un peu plus riches, on pourra, tout en gardant la voie unique, rectifier le tracé. C'est-à-dire que ceux qui sont du domaine peuvent se rendre compte. Même pas du domaine, mais quand vous faites la route Matadi-Kinshasa, il y a les 10 premiers kilomètres où vous montez, vous avez des courbes très serrées. Et le même phénomène s'est répété sur la voie ferrée. Et quand on a construit, peut-être que la technologie ne permettait pas, et le budget qu'il y avait, si on a l'argent maintenant, on peut construire des tunnels à grande durée, donc construire des ponts et des tunnels, aller presque à ligne droite. Et ça peut raccourcir la distance. Au lieu d'avoir 366 km, on peut se retrouver avec 250 km. Ça, c'est vraiment dans un. Mais pour le moment, ce n'est pas une priorité.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va prendre l'ingénieur Valérie à Kindou et Elie à Loko à Mbandaka. Ingénieur Valérie, bonjour. Et quelle est votre contribution, oui?
Je commence par féliciter le gouvernement pour produire l'acquisition de ces hydratifs. Bon, je sais que ce n'est pas encore tellement suffisant par rapport à la population. C'est ça qui est peut-être d'aller entre 10 et 20 millions d'habitants. Je ne dis pas tout le monde qui voyage vers Matadi, mais au moins les trafics sont tout à fait intenses. C'est déjà quelque chose, un bon départ. Et surtout pour deux avantages. Premièrement, ça va réduire les coûts. S'il faut parler de voitures et de wagons, je vais combiner les coûts. Les voitures sont démontées par les locomotives et le personnel, tout ça. Alors, ça va d'abord réduire les coûts des marchandises, d'autant plus que le transport par véhicule coûte un peu plus, alors que les trains remorquent plusieurs wagons, plusieurs voitures. Donc là, au moins, c'est un avantage. Et puis, deux, ça va désengorger un peu les taux d'accident sur la route de Kinshasa-Matadi. D'autant plus que quand il n'y a pas de train, cet afflux de véhicules est aussi à la base de multiples accidents sur cette voie-là. En dehors de cela, j'ai entendu le ministre dire que ce trafic n'est pas tellement rentable, juste question de couvrir un peu les charges. Donc, vous comprenez qu'il y a encore un risque, tel que dans les prochains jours qu'on nous dise encore que voilà, les bénéfices ne permettent pas tellement qu'on y arrive. Moi, je crois qu'il y a déjà un problème qui se pointe à l'horizon. On va chercher comment assurer cette régularité, nonobstant les différents écueils qui peuvent se présenter à l'avenir. Et puis, je ne saurais pas terminer sans parler des travailleurs. Vous savez que le NASRA, donc la SCTP, n'est pas seulement une entreprise, mais aussi une école. C'est une grande école de l'électromécanique, parce que vous avez là-bas les chantiers navals, le voie fluviale et tout et tout. Alors, aujourd'hui, le NASRA compte environ 22 000 travailleurs. Et il faut voir leur situation salariale et ainsi de suite. En fait, une bonne frange de travailleurs déjà tout à fait vieilles, il va falloir renouveler, mais juste là, on va être capable de renvoyer en retraite ceux qui travaillent en retraite. Donc, par là, moi, je demande au directeur, mais si vous estimez que le revenu ne vous permette pas d'opérer directement, si nous disons de renvoyer une grande masse en retraite, il n'est pas possible de se procéder comme les autres, renvoyer chacun à la date, disons, à la date d'anniversaire, préparer, c'est par exemple pour le mois de janvier, il y a autant de personnes qui vont totaliser l'âge de 65 ans. Lors de la veille, on lui donne aussi et la paix de son enveloppe pour commencer à fractionner ça dans 2-3 ans avant, en sorte qu'on puisse au moins désengorger, parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de travailleurs dont on ne sait pas s'occuper. Moi, je crois que sur ces points, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, on doit désengorger pour trouver aussi comment engager les jeunes gens qui viendront, mais tout en ne sacrifiant pas ceux qui ont travaillé parce qu'ils ont été utiles pour l'entreprise. Voilà au moins ma petite contribution.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie, pour votre contribution. Et Elie Lokwa, vous êtes en Mbandaka.
Oui, alors bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, quel est votre commentaire?
Merci pour l'opportunité que vous m'accordez. Ici, d'abord, j'ai remercié les soucis de la société commerciale des transports, mais je veux en quelque sorte agir pour pouvoir plaidoyer pour l'intérêt général de la population congolaise. Alors, ma recommandation personnelle, bon, je veux tout simplement dire qu'il faut qu'il y ait une meilleure configuration politique rationnelle dans les secteurs du transport. Ici, le mouvement, c'est quoi? Il faut que cette société commerciale des transports puisse agir avec un aménagement des routes et aménagement des moyens de transport. Parce que lorsqu'on commence toujours à pouvoir plaidoyer pour qu'on ait un peu de moyens de transport, or que les routes sont détériorées, ça c'est pratiquement impossible pour qu'il y ait un meilleur passage de la population. Mais dès cet aspect, il faut que le gouvernement puisse en quelque sorte mettre en place un mécanisme de suivi. Dont les agents sur qui les responsabilités seront confiées doivent effectivement contrôler la récolte.
Voilà, Elie, là nous sommes devant une responsabilité d'une entreprise. Je crois que c'est vrai, le seul actionnaire c'est l'État.
bon, dès lors que ces engins ont été acquis grâce à la redevance logistique terrestre, on suppose qu'il s'agit là de fonds propres de l'entreprise, et c'est à l'entreprise d'organiser le suivi, hein, de maintenir ou de penser à la maintenance de ces engins. Voilà, là, c'est cela la grande question. Alors, maître Serge, vous nous avez également raison, vous êtes à Kamina, bonjour.
Bonjour, monsieur l'étrangiste, bonjour aussi à tous les missions de la radio Cassine de tout à fait de ce moment.
Oui, quel est votre avis?
Moi, je croyais que doter la société ou l'entreprise de tout cela, anticiper par un crash, il fallait peut-être chercher aussi un personnel, une main-d'œuvre spécifique, et faire aussi un suivi comme les prédécesseurs l'ont dit. Puisque le problème, c'est quoi? Vous allez engager des personnes qui vous n'avez pas de suivi. Voyez-vous que vous ferez une recette là, ou un rendement qui est consistant? Je ne crois pas. Il faut un suivi, oui, et chercher une main-d'œuvre spécifique pour ça. Et surtout, ces gens-là qui ont cette amabilité ou cette opportunité de gérer le personnel aussi et ses engins, et pouvoir ne pas inscrire des tribalismes. Puisqu'il y en a, j'ai vu quelque part là.
Voilà, maître Serge, je comprends.
Je comprends.
Oui,
je comprends.
Voilà, je crois que maître Serge, on va s'arrêter là. Voilà, donc vous parlez beaucoup plus de services de maintenance, monsieur le directeur. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai, avec les précisions qu'on a pu apporter dans le chef des uns et des autres, surtout des intervenants qui avaient besoin pour moi d'être éclairés, parce qu'il y avait encore la lanterne par rapport à certaines questions. Là, c'est vous. Donc, nous confirmons qu'il y a 10 nouvelles voitures qui viennent d'être acquises au niveau de la SCTP en provenance de la Chine. Ces engins sont acquis grâce à la redevance logistique terrestre. Alors, j'aimerais bien que vous, avant de conclure, donc de préciser un peu cette redevance, comment ça fonctionne, cette taxe.
Bon, c'est une taxe instituée par le gouvernement. Il y a un arrêté interministériel qui définit les modalités de perception et d'affectation. En appui, il y a
le mécanisme de perception, les postes sans problème jusque-là, la SCP.
C'est la SCP qui est chargée de récolter. Il y a des dispositions particulières au sein des banques pour que cet argent y soit logé. Et que pour mouvementer ce compte, il faut avoir l'autorisation du gouvernement, en l'occurrence, de deux ministres, celui de Finances et des Transports et Voies de Communication. Voilà. Et
en conclusion,
qui est là depuis quelques temps et elle peut s'étendre jusqu'en septembre 2018. Mais si vous permettez quand même que je revienne
en conclusion d'ailleurs.
Oui. Il s'agit, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, moi quand je venais, j'ai dit je veux parler de voitures de voyageurs. Donc nous avons 5 voitures de deuxième classe. Une voiture de première classe, une voiture snack, une voiture d'énergie, une voiture fourgon, c'est ce que c'est la rame que nous proposons aux voyageurs entre Matadi et Kinshasa. C'est moderne, c'est assez automatisé, c'est climatisé, et effectivement, ça attire un certain nombre de clients, et ça offre un certain standing. Il sera une obligation qui sera faite à nous, ceux qui sont chargés de l'exploitation de la maintenance, mais nous voulons quand même dire aux usagers également de faire un effort pour protéger, qui s'approprient les biens pour l'utiliser à bon escient. Donc, pas avec de couteau pour aller couper, entailler le siège. Quand vous allez dans les lieux des gens, tenez compte que c'est des lieux publics, après vous, des gens passeront. Donc, nous aurons des campagnes à faire pour la population. Donc, nous confirmons ici qu'il y a un service qui est proposé à la population et nous devons nous en réjouir. C'est vrai, les amis font appel, font beaucoup de problèmes. On a des problèmes partout.
On ne peut pas terminer tout à la fois.
Nous vivons dans le même pays. Vous prenez n'importe quel secteur. Vous pouvez à la fonction publique, vous allez à l'administration. Nous n'avons que des problèmes. Alors, nous ne pouvons pas résoudre ici les cadres. Par exemple, pour l'aspect du ressources humaines, j'ai un collègue des ressources humaines qui gère ce secteur. Il y a des projections, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Moi, je ne suis pas autorisé pour le dire ici. Et pour ce qui est de notre ami de Bandaka, je crois que
l'aménagement du territoire. C'est vrai, nous faisons, nous contribuons, mais ce n'est pas notre
travail. Merci beaucoup, Yassalk Dogolo. Nous rappelons que vous êtes directeur du département des chemins de fer à la Société commerciale des transports et des ports SCTP. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout avec élégance d'avoir fait le déplacement de ce studio pour échanger avec les inconditionnels de cette émission et aussi des nouveaux qui ont contribué de manière un peu citoyenne à cette émission. On ne peut pas se quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Dieudonné Nyangassa, Julie Kozabongunda, Martin Essebujangui et moi-même, J.R. Nungembo Labongo. On se retrouve demain dans un autre numéro.